Ceci en parle, une série d'émissions radio mensuelles présentées par CECI Sénégal. CECI, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, CECI travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes, abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais. Une animatrice s'entretient avec des spécialistes du CECI Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. CECI en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1. Pour ce numéro 4, CECI en parle reçoit le docteur Katim Touré, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de l'Université Ibadertiam de Thiès et en ligne depuis Burkina Faso, Madame Safiatou Sanfo, docteur en économie agricole et enseignante au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Thomas Sankara. Ils débattront sur les effets induits par les mesures de contrôle de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes au Sénégal et au Burkina Faso. CECI en parle, c'est tous les mois sur Trade FM, animé par Aminatou Diallo.
Émission 4 de votre émission, donc bienvenue à la Trade FM et merci d'être branché à votre quatrième numéro de CECI en parle. Une émission mensuelle réalisée en partenariat avec l'ONG canadienne, Centre d'études et de coopération internationale. Et le numéro de ce mardi 7 décembre sera axé aux effets induits par les mesures de contrôle de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, mais aussi les reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes au Sénégal et au Burkina Faso. Qui a réalisé cette étude? Qui l'a financée? Quels sont les résultats, éléments de réponse à toutes ces questions à suivre au cours de cette émission qui reçoit aujourd'hui Dr Katim Touré, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA, de l'Université Ibadertiam de Thiès. Dr Katim Touré, bonjour et c'est un énorme plaisir de vous recueillir à ce numéro 4 de CECI en parle.
Bonjour, merci aussi. C'est un énorme plaisir pour moi aussi de venir parler de l'étude que nous avons réalisée sur la sécurité alimentaire, les effets de la COVID sur la sécurité alimentaire et sur les reconfigurations hommes-femmes. Merci.
D'accord. Docteur Katim Touré, vous ne serez pas le seul. On aura en ligne depuis le Burkina Faso dans les toutes 15 dernières minutes de cette présente émission. Nous aurons donc docteur Safiatou Sanfo. Elle est docteur en économie agricole et enseignante au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Thomas Sankara qui interviendra sur les résultats de l'étude conjointement réalisée en Côte d'Ivoire. Pour démarrer cette émission, la première question que je vais poser à Dr Katim Touré, c'est qu'est-ce qui a motivé cette étude sur les effets de la COVID-19 en rapport avec la sécurité alimentaire, mais aussi sur les relations entre hommes et femmes?
Merci beaucoup, Madame Diallo. Vous savez qu'en fait, nous savons tous que la COVID-19 a mis en évidence des liens complexes entre les crises sanitaires et les enjeux de la sécurité alimentaire. Au Sénégal et au Burkina Faso, la pandémie a obligé les autorités à prendre des mesures de restriction pour contrer la pandémie de la COVID-19. Alors, ces mesures de restriction peuvent, on peut notamment citer en fait le couvre-feu, la fermeture des frontières, la fermeture temporaire des marchés, où certains marchés même ont été définitivement fermés durant la période de la COVID-19, mais aussi les restrictions sur les déplacements et sur les transports. Ces mesures ont eu des effets sur les ménages pauvres, qui étaient déjà en fait vulnérables. Donc ces mesures sont venues accentuer la vulnérabilité de ces ménages. Et beaucoup se sont retrouvés sans emploi, sans revenus et sans ressources productives. Alors, certaines données montrent que les effets ou impacts différenciés de la COVID-19 sur les femmes et les hommes, alors, ces derniers, en fait, portant un poids démesuré dans un contexte marqué par des inégalités systémiques, notamment d'accès au contrôle des ressources productives, des marchés et des produits financiers. Face à ce contexte, l'enjeu est de connaître le degré des effets ou de l'impact de la pandémie et de la riposte sur les piliers de la sécurité alimentaire pour les ménages ruraux vulnérables. C'est-à-dire ces piliers sont la disponibilité, aussi bien la production agricole que dans le marché, l'accès, aussi bien en fait l'accès financier, l'accès physique aux ressources, mais aussi l'accès social, mais aussi l'utilisation, c'est le troisième pilier de la sécurité alimentaire, mais aussi un pilier transversal qui se trouve être la stabilité. La stabilité, en fait, qui est un pilier transversal. Alors, comme l'égalité homme-femme constitue un déterminant clé, il est important aussi de comprendre si les mesures de riposte ont changé ou même reconfiguré les rapports de pouvoir existants entre les femmes et les hommes dans les piliers de la sécurité alimentaire. Enfin, les échanges transfrontaliers de ces produits alimentaires sont des leviers importants aussi de la sécurité alimentaire dans l'espace de la CEDEAO. Donc l'enjeu est de connaître justement l'étendue des effets ou de l'impact de la crise, si vous voulez en fait de la pandémie, sur ces échanges, sur les dynamiques transfrontalières, pardon. Et particulièrement pour les femmes impliquées et leurs ménages, et de surcroît, leur sécurité alimentaire et leur autonomie. Et voilà ce qui justifie fondamentalement en fait cette étude qui a été réalisée par le CECI en collaboration avec l'ENSA, avec le CEDRES et avec l'Université de Brook.
Du Canada. Justement, vous allez le confirmer. Est-ce que c'est pour avoir une idée des échanges commerciaux au niveau local, aussi bien qu'au niveau transfrontalier, que vous avez choisi? Par exemple, au Sénégal, dans la zone nord, c'est à Ross Betio, c'est à Podor. Vous avez aussi choisi dans le sud, la zone de Velengara, de Sédio également. Pourquoi le choix de ces zones transfrontalières?
Alors, merci beaucoup. Je pense que ce qu'il faut juste dire à ce niveau, c'est que beaucoup d'études ont été réalisées dans les zones urbaines. Alors, et les zones rurales, en fait, ont été très peu documentées. Alors, donc, du fait de la pauvreté de la littérature, nous, on a pris l'option, en fait, de travailler sur des zones rurales déjà. Alors, la deuxième option, c'est que il fallait, en fait, réaliser ces études dans des zones transfrontalière. C'est ce que nous avons fait à travers les deux pays en fait, qui constituaient les zones d'études, le Sénégal et le Burkina.
Il faut rappeler qu'au Burkina Faso, vous avez choisi les régions des hauts bassins, mais aussi le centre-sud, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. En fait, au Burkina Faso, on a choisi les régions des hauts bassins et le centre-sud. Et au Sénégal, nous avons choisi le nord, avec deux sites dans le nord, la zone de Ross Betio et la zone de Podor, et aussi deux sites dans le sud du Sénégal, la zone de Velingara, précisément à Soutouré, et la zone de Faoune à Sédiou, qui se trouve être dans la région de Sédiou.
Justement, expliquez-nous le choix de ces zones transfrontalières. Est-ce que c'est pour avoir une idée des échanges commerciaux s'ils ont été impactés par les mesures restrictives liées à la COVID-19, pour avoir une idée sur la Guinée, la Gambie, les zones transfrontalières en général?
Alors, comme j'ai dit dans mes propos en fait passés, il était important pour nous en fait de connaître toute cette dynamique, de connaître en fait les effets ou les impacts sur les dynamiques transfrontalières en fait dans les deux pays. Et c'était important pour nous en fait de l'étudier, d'autant plus qu'il y a très peu d'études autour de cette question, c'est-à-dire comment la COVID-19 a eu des effets, des impacts plus ou moins négatifs, sur le commerce transfrontalière, mais aussi sur les relations en fait de genre.
Alors, Dr Touré, en collaboration avec les deux centres que vous venez de citer, c'est-à-dire le CEDRES de l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso, de l'Université Brook du Canada, est-ce que ça a été facile d'avoir une méthodologie pour mener à bien cette étude? Quelle est l'approche que vous avez adoptée?
Oui, merci beaucoup. Je pense que un des défis majeurs, c'est d'asseoir une méthodologie qui répond en fait à tous les objectifs de recherche. Alors, ce qui a été facile jusqu'ici, c'est que cette méthodologie a été co-construite entre les institutions en fait en charge de l'étude, c'est-à-dire le CECI. Parce que quand je dis le CECI, en fait, ce CECI, il est divers. Donc, c'est constitué en fait du CECI Canada et du CECI dans les deux pays, le Burkina Faso et le Sénégal. Mais aussi les centres de recherche comme l'ENSA, comme le CEDRES, comme Brooke au Canada. Donc c'est une méthodologie qui a été co-construite entre ces différents partenaires. Alors cette méthodologie aussi, je dois dire en fait, est constituée d'étapes. D'abord la première étape, pour aller vite en fait, c'est d'élaborer un guide d'entretien semi-directif. D'entretien demi-directif, en fait, guide à l'endroit des commerçantes et des commerçants, mais aussi à l'endroit des productrices et des producteurs, mais aussi des transformatrices et des transformateurs. Voilà, en fait, les cibles qui constituaient le guide d'entretien. Alors, une deuxième étape a été de mettre en place, en tout cas, de tenir des ateliers de co-construction de savoir avec des outils spécifiques. Là aussi, c'est-à-dire le photo voice. Le photo voice, comme son nom l'indique, en fait, c'est des photos parlantes qui essayent de comparer la situation avant la COVID et la situation après ou durant la COVID. Alors, mais aussi la cartographie participative. Cette cartographie participative a donné l'opportunité aux cibles, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes avec lesquels nous avons travaillé, de dessiner le contour de leur territoire avec les effets de la COVID-19 ou avec les perturbations liées à la COVID-19. Et après, en fait, l'analyse graphique du pouvoir qui donne l'opportunité aussi à ces hommes et à ces femmes de dire dans leur contexte, dans leur zone, quels sont les opposants à la sécurité alimentaire, aux relations hommes-femmes, et quels sont les alliés à la sécurité alimentaire. Les alliés peuvent être des institutions, des hommes, des leaders influents dans leur communauté. Alors, mais aussi, en fait, après cette phase, on a eu en fait une dernière phase liée à la restitution et à validation en fait des résultats à travers la restitution des résultats clés de l'étude, mais aussi à travers l'élaboration d'arbres à problème et à solution. Alors, donc ces recherches, en fait, ces différentes étapes ont été faites à travers des groupes d'hommes et de femmes, et dernièrement à travers en fait la restitution des groupes de leaders. Cette démarche, en fait, permet d'analyser une situation circonscrite dans le temps et par rapport à un passé proche, facilitant la comparaison pour des personnes interviewées entre le Burkina et le Sénégal. Mais aussi une approche participative de co-construction des données socio-économiques liées à la situation avant et pendant ou durant la pandémie.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Dr Touré, vos cibles, c'était les producteurs, les transformateurs, les commerçants, aussi bien les femmes que chez les hommes. Alors, quels ont été les résultats de ce projet de recherche?
Alors, l'étude révèle plusieurs résultats. D'abord, sur la sécurité alimentaire et sur les différents piliers de la sécurité alimentaire. Alors, permettez-moi en fait de revenir sur les résultats saillants, parce que j'ai décliné le terme de sécurité, le concept de sécurité alimentaire à travers ces différents piliers. Alors, je vais revenir en fait sur chacun de ces différents piliers, ne serait-ce que sur ces trois piliers. Alors, que révèle l'étude sur les impacts de ces restrictions sur la sécurité alimentaire dans les deux pays? Donc, d'abord, sur la sécurité alimentaire en termes de disponibilité. Oui. D'abord, sur la production agricole. Alors, l'étude a révélé des effets sur les systèmes de production agricole. Il relève en fait de l'étude que la main-d'œuvre en fait était rare et qu'il y a eu des effets sur les mesures, les effets de ces mesures en fait sur l'approvisionnement en intrants de façon globale, sur la réduction du temps de travail des acteurs et des actrices à la production, sur la diminution des superficies cultivées, mais aussi sur des pertes de production liées à la divagation des animaux. Alors, et les effets, en fait, de ravageurs, comme les oiseaux granivores sur les cultures, alors, qui ont été accentués, justement, en fait, par ces mesures, du fait simplement que, durant le couvre-feu, certaines populations étaient dans l'impossibilité, en fait, de surveiller les champs. Mmh. Alors, l'étude a montré aussi que, sur la production agricole, il y a eu des pertes post-récolte qui sont liées, en fait, des pertes post-récoltes, en fait, qui sont chiffrées à plus de 20% de la production et qui sont liées, justement, à des problèmes d'écoulement. Mmh. Alors, sur le marché, de façon globale, il faut dire qu'en fait, que l'étude a aussi révélé des problèmes d'approvisionnement des marchés et des difficultés d'écoulement, en fait, des produits, mais aussi la réduction, en fait, des productions, la réduction des productions agricoles qui vont vers les marchés. Mmh. Alors, nous, on constate aussi qu'il y a une augmentation, pardon, en fait, des coûts de transport, mais aussi, alors, de façon globale, ce qu'on veut dire, en fait, cette situation a largement contribué, en fait, à la réduction de la disponibilité, puisque je parlais de disponibilité tout à l'heure, des aliments dans les marchés. Et ce qu'il faut dire à ce niveau, en fait, que le message qu'on peut véhiculer, c'est que les mesures de restriction de la COVID-19 ont complètement fragilisé la disponibilité des aliments sur le marché.
Est-ce que ça a créé de l'insécurité alimentaire dans ces zones ciblées?
Alors,
compte tenu des résultats.
Il est évident que l'étude que nous venons de faire, en fait, a montré qu'il y avait une insécurité alimentaire, parfois même chronique, dans certaines zones, du fait des effets, en tout cas des mesures de la COVID-19. Mmh. Alors, maintenant, je voudrais revenir, puisque comme je l'ai fait sur le pilier disponibilité, je vais revenir sur le pilier accès. Merci. Alors là, je distingue, en fait, l'accès physique, l'accès financier et l'accès social. Mmh. Alors, l'étude a montré que, du fait de la baisse de la disponibilité sur le marché, il y a aussi des effets aussi sur l'accès physique, liés aux difficultés de se déplacer, en fait, des acteurs, notamment des femmes, qui constituent, en fait, des maillons clés sur la sécurité alimentaire, du fait de la fermeture des marchés, du fait de la baisse des fréquentations, en fait, des marchés, il y a eu, en fait, des effets sur l'accès physique aux aliments. Mmh. En termes d'accès financier, alors, du fait que les populations ne travaillent plus, ces populations rurales, alors, donc, ces populations sont confrontées à une baisse de leur pouvoir d'achat. Et du fait, en fait, de cette baisse du pouvoir d'achat et de la hausse des prix, alors, ces populations ont du mal à accéder, en fait, à certains aliments. Mmh. Alors, mais aussi, comme vous le savez, on est dans le monde rural, il y a des stocks. Alors, les stocks constituent, en fait, des facteurs importants dans la sécurité alimentaire des ménages. Alors, la COVID-19 a réduit ou annulé même, en fait, certains stocks. Mmh. Ces stocks sont devenus insuffisants ou inexistants dans certains ménages. Et du fait de cela, en fait, certains n'avaient pas, en fait, d'accès social aux aliments. Alors, comme nous l'avons dit aussi, en termes d'utilisation, il y a eu des problèmes dans la transformation, dans la qualité ou la quantité des aliments, en fait, au niveau des ménages. La transformation a eu des problèmes, donc l'accès était limité, l'accès au moulin de transformation, en fait, était limité. Mm-hmm. Mais aussi la fermeture des unités de transformation ou le fort ralentissement, en fait, de leurs activités. Et in fine, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, des quantités et la qualité des aliments qui étaient limitées. Alors, même si les modes de cuisson n'ont pas fondamentalement changé, il y a eu une réduction, en fait, des quantités et des quantités d'aliments à consommer. Mm-hmm. Et à ce niveau aussi, il y a un message clé que je voudrais lancer. Oui. Je veux dire qu'en fait, que les mesures de restriction de la COVID-19 ont eu des effets négatifs sur la nutrition et induisent une surcharge, en fait, de travail, parce que les mesures, comme je l'ai dit tantôt, en fait, induisent une surcharge de travail. Mm.
Docteur, on en vient toujours aux résultats. Est-ce qu'on peut dire que, je rappelle aux auditeurs que vous êtes en même temps spécialiste des systèmes de production des chaînes de valeur agricole et agroalimentaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que les mesures de restriction n'ont pas tenu compte des activités économiques locales? Ces mesures n'ont-elles pas bouleversé le fonctionnement, même le bon fonctionnement des systèmes de production et des chaînes de valeur?
Alors, pense que c'est ce qu'il faut dire et redire. Je pense que les mesures de restriction qui ont été prises dans les deux pays, ces mesures sanitaires n'ont pas pris en compte les activités productives. Oui. Je pense qu'en fait, et là, beaucoup d'acteurs l'ont dit, notamment en fait les organisations de producteurs et beaucoup d'acteurs au développement. Et toutes les études, y compris l'étude que nous venons de faire, le révèle fortement que ces mesures ont eu des effets négatifs majeurs sur les systèmes de production et sur les chaînes de valeur et au-delà même sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire.
Peut-être une des raisons qui a poussé le président, le chef de l'État Macky Sall en mars 2020 de dégager une enveloppe de 69 milliards de francs CFA destinée à l'aide d'urgence alimentaire aux couches vulnérables qui est sortie du fonds Force Covid-19 qui coûtait 1000 milliards presque. Est-ce que finalement cette aide d'urgence alimentaire a eu ses effets positifs sur la sécurité alimentaire au niveau surtout de ces zones ciblées dans votre étude?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en zone rurale. Alors, et pour revenir un peu en fait, à votre question, j'aimerais en fait mettre au panier en fait, des résultats ceci. Donc, en fait, dans ces zones, ces populations... quoi qu'on dise, en fait, accède à certains types d'informations, mais n'accède pas en fait à des informations stratégiques liées au parfois en fait aux formes d'aide liées en fait à la nature des études. D'accord. Alors, ce que je peux dire en fait sur les zones où nous sommes allés faire l'étude, c'est que les populations, en fait, beaucoup de ces populations disent que certains ont reçu de l'aide alimentaire, d'autres pas. Alors, mais la majorité en fait affirme ne pas avoir reçu d'aide. Et même ces populations, en fait, cette partie de la population qui a reçu de l'aide, disent qu'en fait, l'aide était insuffisante par rapport à leurs besoins.
Donc, ça n'a pas réglé le problème de la sécurité alimentaire, c'est ce que vous voulez dire?
Alors, je veux dire qu'en fait, que dans cette zone, clairement, d'accord, l'aide n'a pas réglé la question de la sécurité alimentaire.
Pourtant, dans votre étude, vous disiez qu'il existe des femmes qui ont été très, très championnes, surtout les femmes qui s'activent, qui sont étuveuses, parce que tout simplement, champions de suivi en temps de pandémie, parce qu'ils ont bien suivi et ont su s'adapter à la pandémie pour mener à bien leurs activités. Et s'il existe ces femmes championnes, c'est dans quelle zone?
Alors, je pense qu'en fait, dans toutes les zones où nous avons été, aussi bien dans la zone nord que dans la zone sud, l'étude a révélé que les femmes sont très, très résilientes, en fait, par rapport à ces grandes pandémies. Ça, en fait, il faut le dire. Parce que lorsqu'on rentre, en fait, sur le fond des résultats, la sécurité alimentaire au niveau des ménages était réglée par les femmes, notamment en fait ces femmes en fait transfrontalières, en fait les femmes qui sont des commerçantes transfrontalières et qui jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire en fait des ménages. Alors, maintenant,
en quoi elles ont été championnes?
Alors, les femmes en fait ont été championnes du fait que elles peuvent en fait se reconvertir dans d'autres activités, contrairement en fait aux hommes, parce qu'on a vu que des femmes commerçantes en fait qui ne pouvaient plus aller faire leur commerce se sont reconverties dans le jardinage ou dans le maraîchage pour pouvoir justement en fait assurer la sécurité alimentaire de leur ménage. Et ce sont ces femmes justement en fait, même certaines femmes commerçantes ont dû mettre en place en fait des stratégies pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire au niveau de leur ménage.
Docteur Touré, le Sénégal et le Burkina Faso, deux pays que vous avez choisis pour mener cette étude d'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, mais sur les reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes, est-ce que les résultats du Sénégal sont similaires à ceux du Burkina Faso?
Alors, il y a beaucoup de similarités, en fait, sur les résultats que nous avons. Donc, si vous regardez bien, partout où je cite le Sénégal, je cite le Burkina Faso. Par contre, il y a des spécificités en fait liées à certains résultats du Sénégal et au Burkina Faso. Mais vous savez qu'en fait, nous sommes deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas fondamentalement différents. Alors, même si nous sommes différents sur le plan de l'alimentation, par des aliments qui sont utilisés. On n'est pas tellement différent en fait sur le plan de la production agricole, sur le plan du marché et globalement en fait sur le plan des leviers de la sécurité alimentaire. Mais ma collègue en fait va revenir sur ces aspects. Docteur Sanfo, en fait, sur ces aspects qui sont spécifiques au Burkina.
D'accord. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez le numéro 4 de Ceci en parle. La pause, c'est juste, on continue, me dit le technicien. Alors, docteur, on va rester avec vous avant de joindre Docteur Sanfo depuis le Burkina Faso pour revenir justement. On va rester tout le temps sur les mesures sur le commerce. Quels ont été les effets de la COVID-19 sur le commerce transfrontalier? Vous l'annonciez tout à l'heure, vous avez choisi des zones transfrontalières, ce n'est pas anodin. Pourquoi vous avez choisi ces zones et quels ont été les impacts sur le commerce transfrontalier? Est-ce que les échanges commerciaux ont été réduits selon les résultats que vous avez eu à avoir?
Merci beaucoup. Alors, je le disais tantôt, en fait, l'étude a montré que le commerce transfrontalier, en fait, a pris un coup lors de la COVID-19. Alors, et ce coup continue, en fait, on continue à avoir les effets, ou en tout cas, avoir les impacts, en fait, de la COVID-19, en fait, sur le commerce transfrontalier. Mmh. Juste pour dire en fait qu'il y a des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire des ménages et sur l'autonomie en fait de ces femmes commerçantes. Mmh. Alors, le fait de bloquer en fait les routes, c'est-à-dire les barrages, c'est-à-dire les restrictions de déplacement, le blocage des axes routiers, alors, entre les frontières, je peux donner l'exemple du Sénégal, avec la Mauritanie, avec les deux Guinées. Mmh. Alors, Ces barrages, en fait, ou ces blocages ont eu des effets très négatifs sur le commerce, surtout sur les femmes commerçantes, en fait, transfrontalières. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, ces femmes jouent un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire du ménage, mais même dans l'autonomie économique, en fait, de ces ménages. Donc, tout ce qui est lié, en fait, à la fermeture des marchés, comme je disais tout tantôt, a des effets sur l'approvisionnement de façon globale, l'approvisionnement de ces femmes, mais aussi de leur ménage, alors, mais aussi perturbe l'approvisionnement en fait des marchés. Alors, n'oublions pas que le commerce transfrontalier profite aux deux pays. Mm-hmm. Alors, par exemple, je donne un exemple, les femmes sénégalaises quittent le Sénégal pour aller en Guinée, ou à la frontière, ils vendent des produits sénégalais et au retour, amènent des produits de terroir guinéen. Mm-hmm. Alors, donc, ces effets étant annihilés, alors, ne peuvent qu'avoir en fait des répercussions sur ces femmes et sur leur sécurité alimentaire. Et in fine, ces femmes en fait ont une perte d'autonomie financière parce que les revenus en fait que ces femmes avaient sont drastiquement réduits ou en tout cas annihilés. Alors ces femmes ont une perte d'autonomie économique. Alors, parce que ces femmes, en fait, jouaient un rôle économique dans leur ménage du fait de leur revenu, du fait de leur pouvoir d'achat. Ces effets sont annihilés, mais aussi une perte d'autonomie sociale, parce que ces femmes représentaient, en fait, quelque chose dans leur communauté par rapport à leur vie de couple ou par rapport, en fait, à leur rapport avec leur famille. Et tous ces effets, en fait, sont annihilés. Et le message, en fait, que je lance ici, c'est que les femmes transfrontalières, en fait, ou les femmes engagées dans le commerce transfrontalier méritent d'être soutenues du fait de leur rôle majeur dans la sécurité alimentaire, en fait, des ménages.
Docteur, vous n'avez pas limité votre rapport sur l'impact de la COVID sur la sécurité alimentaire. Vous l'avez fait aussi sur les reconfigurations des rapports entre les femmes et les hommes. Alors, que dit l'étude par rapport, justement, au rapport dans le genre on constate des violences basées au niveau de la COVID. On constate aussi la maltraitance des enfants. Ça ne concerne pas l'étude, la maltraitance des enfants, mais aussi c'est un phénomène qui a ressurgi en période de pandémie. Pour ce qui concerne les rapports entre hommes et femmes, quels sont les résultats obtenus?
Alors, je pense qu'en fait, à ce niveau, il faut dire qu'il y a deux types de résultats. Alors, la COVID-19 a généré des tensions entre les rapports entre hommes et femmes, il faut dire, mais aussi a permis à certains couples, ou en tout cas des rapports hommes-femmes, en fait, d'être affermis. Mm-hmm. Donc, je vais exprimer les résultats par rapport à ces deux temps. Mm-hmm. Alors, premièrement, en termes de tension, ce que j'appelle, en fait, l'étude a révélé qu'en fait, les rapports hommes-femmes ont été tendus dans certains contextes et dans toutes les zones, aussi bien et dans tous les pays aussi, aussi bien au Sénégal, au nord et au sud, mais aussi au Burkina, dans la zone des hauts bassins et dans l'autre zone en fait d'études. Alors, certains hommes, du fait de leur manquement aux obligations des hommes pour nourrir la famille, et du fait en fait de la situation difficile liée aux mesures de restriction de la COVID-19, alors, cette situation a généré une situation de frustration de l'homme, mm-hmm. alors, qui induit des réactions négatives, parfois en fait des tensions entre l'homme et la femme, ou alors un manque d'harmonie en fait dans la famille. Mm-hmm. Alors, pour certaines femmes, cette situation difficile a généré en fait des disputes, mm-hmm. entre hommes et femmes dans le ménage. Mm-hmm. Alors, je pense qu'en fait, ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que la COVID-19, en fait, a reconfiguré les relations de genre. Et ça, c'est un aspect. Mais sur l'autre aspect, en fait, par rapport à ce que j'appelle la coopération ou le compromis ou les effets négatifs, alors, il est ressorti, en fait, de l'étude que les relations hommes-femmes durant la COVID, en fait, ont été harmonieuses. Alors, les hommes et les femmes, en fait, s'entraident dans les travaux des ménages, dans la production agricole de façon globale. Et les femmes, en fait, font beaucoup d'efforts dans l'amélioration des conditions de vie des ménages, mm-hmm. à travers, en fait, l'occupation des enfants, mais aussi, en fait, les tâches ménagères en fait de façon globale.
Est-ce que on peut dire il y a plus du positif que du négatif quant aux reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes, puisque vous nous avez parlé des deux étapes?
Alors je pense qu'en fait il est plus ressorti des effets négatifs en fait liés aux relations hommes-femmes que d'effets positifs. Mmh. Alors maintenant, ce que nous, puisqu'en fait nous sommes allés dans une posture en fait de recherche, alors ce que nous sommes dit, ce que nous mettons en exergue ici, c'est la reconfiguration en fait des rapports de genre. Mmh. Ce qui est positif dans ça, c'est que certains hommes sont conscients du rôle que jouent les femmes,
surtout dans les ménages,
dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans la prise en charge en fait des enfants.
D'accord. Merci, docteur Katim Touré. Nous allons revenir tout à l'heure, juste après une courte pause. Et nous allons joindre depuis le Burkina Faso, docteur Sanfou, qui est également co-réalisatrice de ce projet de recherche.
Ceci en parle, une série d'émissions radio mensuelles présentées par Ceci Sénégal. Ceci, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, Ceci travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes, abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du Ceci Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ceci en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1.
Pour ce numéro 4, Ceci en parle reçoit le docteur Katim Touré, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de l'université Ibadertiam de Thiès et en ligne depuis Burkina Faso, Madame Safiatou Sanfo, docteur en économie agricole et enseignante au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale de l'université Thomas Sankara. Ils débattront sur les effets induits par les mesures de contrôle de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes au Sénégal et au Burkina Faso. Ceci en parle, c'est tous les mois sur Trade FM, animé par Aminatou Diallo.
Je rappelle que vous suivez le numéro 4 de votre émission mensuelle Ceci en parle, et pour ce numéro, nous échangeons sur les effets induits par les mesures de contrôle de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes au Sénégal et au Burkina Faso. Une étude subventionnée par le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI d'Ottawa au Canada, co-réalisé par 3 centres de recherche universitaires que sont l'École nationale supérieure d'agriculture de l'Université Ibadertiam de Thiès, le Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale, le CDRS de l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso, mais également l'Université Brock au Canada et le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI. Nous allons poursuivre avec Dr Touré avant d'avoir en ligne Dr Safiatou Sanfo. Dr Katim Touré, vous êtes, je le disais tout à l'heure, enseignant à l'Université Ibadertiam de Thiès sur la sécurité alimentaire, justement les effets induits par la COVID-19 sur la sécurité alimentaire. Vous êtes spécialiste pour tout ce qui concerne système donc alimentaire et agronomique. Alors, sur la sécurité alimentaire, nous allons y rester. On me signale que Dr Sanfo, on l'a joint depuis Burkina Faso. Alors, Dr Safiatou Sanfo, bonjour, vous nous entendez?
Bonjour, Madame Diallo, oui, je vous reçois parfaitement.
Merci d'accepter d'être en ligne pour participer à ce numéro de Ceci en parle. Vous êtes docteur en économie agricole et enseignante au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale, le CDRS de l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso. Vous allez intervenir tout à l'heure sur les résultats de l'étude conjointement réalisée au Burkina Faso. Alors, docteur, on aimerait savoir sur les résultats des effets de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Docteur Touré disait tout à l'heure, les résultats sont un peu similaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ce qui concerne le pays de Thomas Sankara?
Oui, bonjour, Madame Diallo. Merci, vous me permettez donc de saisir l'occasion donc déjà pour remercier toute l'équipe donc de votre radio. Merci beaucoup à vous et merci à toute l'équipe de Ceci Sénégal Dakar, mais Ceci Burkina Faso, Ouagadougou, Ceci Canada. Merci donc à Madame Denise de nous avoir aidé donc à préparer et à organiser donc cette émission. Merci donc à mon collègue Dr Katim Touré de ENSA. Merci donc aux autres, Isabelle Fatoumata et aux autres chercheurs donc, du Canada. Et merci donc à Madame Mitiema ici, donc à Ceci, Madame Mitiema et aussi Madame Caboret. Et merci donc au directeur donc, du CEDRES et à toute l'équipe en tête du CEDRES qui ont participé donc, à cette étude au Burkina Faso. C'est un réel plaisir hein, pour moi donc, de rejoindre cette équipe, l'émission. Même si je ne suis pas chaleureusement donc, en contact avec vous et que je suis en ligne, je suis très, très, très contente de pouvoir donc, donner donc, ma pensée et mes idées en fait, sur les résultats donc, qu'on a trouvés. Oui, enfin, comme Dr Katim, mon collègue, l'a dit, il y a eu en fait, des effets négatifs donc, sur la sécurité alimentaire hein, au Burkina Faso aussi, notamment donc, les quatre piliers donc, de la sécurité alimentaire ont été atteints. La disponibilité de la sécurité alimentaire a été affectée. Alors, parce que les marchés sont fermés, les lieux publics sont fermés, et donc, du coup, les gens ne pouvaient pas accéder donc, au marché pour avoir donc, de la disponibilité. Mais aussi, au niveau de la production, on a eu donc un problème. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas donc avoir, on va dire, des finances, mais aussi donc des intrants, parce qu'ils comptent n'importe, puisque les marchés sont fermés. Et donc, du coup, il y a eu une baisse au niveau donc, de la production agricole. Et les gens l'ont noté lors donc, de mes passages donc, pour collecter les données. Les participants et les participantes l'ont noté. Et, mais il y a aussi un problème donc, de labour. Vous savez donc que dans nos régions, aussi bien là-bas à Dakar, mais au Sénégal, mais au Burkina Faso donc en particulier, les gens donc, avaient donc, des entraides lors donc, de la production agricole. C'est-à-dire que lors donc, des périodes de pointe, comme le labour, les semis et les récoltes, les gens s'entraidaient. Mais comme la pandémie donc, a amené en fait, les caractères donc, de distanciation sociale, bah, chacun restait donc, dans son champ et il n'y avait pas cette entraide. Et tout ça donc, a participé à diminuer en fait, la production. Et au niveau donc, du pilier, comme la stabilité, il y a eu un problème parce que les marchés étaient fermés. Et donc, il y a eu donc, une instabilité en fait, dans le temps et dans l'espace et des produits agricoles. Au niveau de l'utilisation, il y a eu donc une baisse, c'est-à-dire les gens avaient donc des problèmes, ils n'avaient pas accès aux épices, par exemple, sur le marché, et les gens n'avaient pas donc le nombre de repas requis, mais aussi il y avait un problème d'accès, et parce que les gens ont perdu leur pouvoir d'achat, il n'y avait pas donc il y avait plus de travail, notamment donc ce qu'on appelle les épices sur les zones, dans les zones transfrontalières, les gens qui vivaient dans du commerce, ils se sont retrouvés sans emploi. Et donc, du coup, pas de pouvoir d'achat, donc pas d'accès, donc, ni physique, ni accès économique, quoi, aux denrées alimentaires. Donc, on a vu aussi des mêmes risques et des effets négatifs de la sécurité alimentaire au Burkina Faso.
Docteur Sanfo, donc, comme au Sénégal, l'insécurité alimentaire reste une réalité dans certaines zones, notamment dans les hauts bassins et le centre-sud, zone dans lesquelles vous avez choisi de mener l'étude au Burkina Faso.
Oui, exact. On a eu hein, une baisse en fait, de la sécurité alimentaire, puisqu'on a étudié donc, tous les piliers de la sécurité alimentaire, notamment dans ces zones-là, de ces zones transfrontalières, en fait, du Burkina Faso. Oui, il y a eu un impact négatif donc, de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, au centre-sud et au bassin, là où nous avons mené des études. Oui.
Alors, quelles ont été les stratégies d'adaptation et les réponses développées par les populations au Burkina?
Alors, c'est vrai, parce qu'il y a eu donc des impacts négatifs donc, sur la sécurité alimentaire. Et lors de nos études, on a constaté, on a observé que les ménages ont développé donc, des stratégies que nous avons donc lors de la recherche classées comme des stratégies donc, négatives, donc nous appelons maladaptation, donc des adaptations donc, négatives, mais aussi il y a eu donc, des stratégies donc, d'adaptation positive. Donc, en termes de maladaptation, on va dire entre guillemets adaptation négative, les familles ont diminué en fait le nombre de repas. Et ça, nous l'avons constaté comme au Sénégal ou au Burkina Faso, que c'est une situation donc grave, parce que c'est en cas de famine que les gens diminuent en fait le nombre de repas. Donc pour s'adapter, on va sauter le repas du matin et le repas du midi et manger que le soir. Et le lendemain, c'est quand il y a seulement le reste du soir qu'on peut manger le matin. Il y a eu aussi une adaptation au niveau donc, de la consommation. Les gens nous ont souligné donc, les problèmes d'estomac qu'ils ont eu en consommant donc, des aliments qui n'étaient pas adaptés, c'est-à-dire des aliments qu'ils n'avaient pas l'habitude donc, de consommer. Mais comme il y a la crise, et comme l'accès physique et l'accès même économique, parce qu'ils n'avaient plus donc, d'argent pour acheter donc, les aliments, donc ils se rabattaient en fait, sur des aliments moins chers qui n'étaient pas adaptés à leur consommation. Donc il y a eu donc, des cas de problèmes d'estomac qui ont été évoqués lors de nos interventions. Mais il y a eu aussi une privation de l'État, de certains membres de la famille, notamment les femmes. Donc, docteur Touré, donc, vous a dit que les femmes ont été résilientes. Oui, c'est le cas aussi qu'on a observé au Burkina Faso. Parce que les femmes avaient adopté donc, de ne pas manger pour pouvoir laisser donc, le repas. Parce que si on préparait, par exemple, 2 kg de riz, on va préparer maintenant 1 kg ou 1 kg et demi. Et donc, les femmes avaient adopté de ne pas manger pour pouvoir donner le repas donc, à leurs enfants et à leurs maris. Et il y a des femmes qui nous ont dit, bah oui, même si on voulait manger, nos maris allaient dire, bah non, toi tu as fait la cuisine, tu étais dedans, tu as goûté donc à la sauce, laisse-moi manger avec les enfants maintenant. Donc, il y a eu donc cette adaptation qu'on a classée donc, comme une adaptation donc, négative. Mais il y a eu aussi donc des contournements, hein, puisqu'on a investigué dans des zones transfrontalières, Donc, il y a eu des femmes et des hommes qui se sont adaptés en contournant les frontières pour continuer, en fait, leur vente, leur commerce. Donc, ils ont dû le faire clandestinement. Et ça, ça a amené donc des fois dans des violences, voilà, au sein donc de ces zones-là, on va dire, donc transfrontalières. Parce qu'elles contournaient, elles utilisaient des pistes, les hommes aussi utilisaient des pistes pour pouvoir donc passer d'une région à une autre, pour pouvoir passer les frontières et aller de l'autre côté vendre un peu ce qu'ils avaient à vendre. Dans la catégorie donc d'adaptation positive, et les dames ont su développer ce qu'on pourrait donc appeler donc des idées ingénieuses. Des idées ingénieuses, parce qu'ils ont développé ce qu'on a appelé dans la recherche un système donc, de commerce à distance locale. Donc, ça veut dire que et moi, par exemple, je vends des légumes et vous, par exemple, vous voulez acheter. Et comme il y a eu la distanciation sociale, on se retrouve, on se dit, bah, on enlève un lieu. Moi, je viens déposer, par exemple, des légumes, le panier de légumes. Et vous, vous venez, vous prenez le panier, vous déposez l'argent et moi, je passe donc chercher tout simplement. Mais il y a eu aussi donc cet investissement au bord dans des routes, c'est-à-dire les femmes ont choisi donc, d'investiguer le bord dans des routes pour vendre donc, du charbon de bois, pour vendre en fait l'herbe de ville, pour vendre des tomates et des oignons. Donc ça, c'est des adaptations en fait positives donc, qu'on a classées donc, au niveau donc, des stratégies d'adaptation de ces ménages-là pour leur sécurité alimentaire, pour leur survie.
Docteur? Est-ce que, comme au Sénégal, les couches vulnérables du Burkina Faso ont bénéficié de cette aide alimentaire d'urgence?
Oui. Des couches vulnérables donc, ont bénéficié donc, des aides alimentaires, mais on va dire notamment dans les îles. Notamment dans les îles. Parce que lors de nos enquêtes, on a dû observer en fait que les ménages dans les zones reculées, notamment donc dans ces zones transfrontalières, nous ont rapporté qu'ils ont dû passer à la télé des aides alimentaires en fait, mais qu'ils n'avaient pas donc reçu des aides. Oui, il y a eu des aides, mais au niveau donc des centres-villes, parce que c'est vrai que les pouvoirs publics et les autorités donc avaient donc constaté aussi, on peut le dire, qu'ils avaient aussi constaté que la crise prenait donc de l'ampleur, notamment donc dans les villes, et aussi parce que la ville grenait. Voyez-vous, les commerçants, puisqu'on a fermé les marchés, les grands marchés, les commerçants grenaient. Ils disaient, bah non, nous allons aller dans les marchés, même si nous allons mourir de la COVID, c'est mieux que de mourir dans des faim. Parce que nous avons des économies, on va dire, très fragiles. Et les gens vivent du jour au jour. Il faut aller au marché pour pouvoir avoir de l'argent et racheter du lit pour rentrer à la maison préparée. Donc, si le marché est fermé, bah, les gens n'ont pas de l'argent. Et donc, du coup, ils ont eu des aides alimentaires, mais notamment dans les villes. C'est pas dans les villages. Et les gens en ont parlé. Donc, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'aide dans les villages. Donc, ils étaient obligés.
Docteur, vous avez mené cette étude pour aider les autorités du Sénégal et du Burkina Faso à la bonne prise de décision, mais aussi à avoir des orientations claires. Quelles sont les attentes de la part de ces autorités des deux pays?
Alors, je crois que les autorités donc, de nos pays attendent en fait qu'on leur apporte en fait des recommandations. Parce que c'est vrai, eux, ils sont donc au pouvoir, c'est vrai. Et ils peuvent écouter en fait les chercheurs qui sont donc sur le terrain et qui côtoient en fait la population pour amener en fait ce qui se passe en fait sur le terrain. Parce que ce n'est pas aisé peut-être pour eux de faire un peu tout le tour en fait hein, du pays. Et donc, du coup, ce que nous trouvons, nous l'avons donc classé. Par exemple, on est en train d'écrire dans ce qu'on appelle donc des notes politiques et faire des plaidoyers avec les résultats donc qu'on a trouvés. Et en cas de pandémie, il faudra donc privilégier donc des mesures au cas par cas. Parce que c'est vrai, on a tous eu peur, les autorités ont eu peur et ont peut-être développé en fait des mesures qu'ils ont développées et ils ont mis donc en œuvre en fait des mesures qui ont été peut-être pas bien adaptées en fait pour nos économies très fragiles, pour nos économies locales. Et donc dans le futur, c'est adapté au cas par cas. C'est-à-dire que ces mesures-là devaient être adaptées au cas par cas. Et je pense donc que le gouvernement prendrait note en fait des notes politiques qu'on est en train donc de développer parce que ce sont des recommandations pour des crises futures et pour des pandémies. On ne le souhaite pas, mais au cas où, il faudra donc développer des stratégies au cas par cas.
Docteur,
docteur. L'autre question qu'on abordait tout à l'heure avec docteur Katim Touré, c'est la résurgence des tensions qui a été notée également auprès d'un certain nombre de foyers durant cette période de crise sanitaire. Votre étude a également porté sur les rapports entre les hommes et les femmes en pleine crise sanitaire. Au niveau du Burkina Faso, quels ont été les résultats?
Alors, je crois que les résultats ont été semblables, hein, même s'il y a des différences par-ci par-là au Sénégal. Il y a eu des tensions, mais pas seulement que des tensions, des compromis, mais aussi il y a eu des coopérations et des entraides dans les ménages au Burkina Faso. Puis on parle de tensions parce qu'il y a des mésententes, hein, des mésententes au sein donc, des membres de la famille, des violences verbales, des violences physiques. Mais ces tensions-là et ces mésententes sont liées à des facteurs, par exemple la perte de repères. Vous voyez, les hommes étaient incapables d'aller travailler et de jouer pleinement leur rôle. Donc, ça crée des frustrations. Donc, les hommes n'avaient pas de repères. Mais il y avait aussi le stress physique et mental, c'est-à-dire la crainte de la maladie. Vous voyez, la distance, la méfiance de l'autre, la méfiance entre les autres. Donc, il y avait aussi un stress physique qui était causé par la faim. Voyez-vous, donc les gens ne mangeaient pas à leur faim, il fallait respecter les mesures. Donc, ça créait des tensions qu'au Burkina Faso aussi, donc on avait remarqué. Mais aussi, à côté donc, de ces tensions-là et de ces mésententes et violences, on va dire, conjugales, il y a eu aussi donc, des effets, on va dire, positifs. On va dire, la pandémie donc, et les riposte donc, ont déstabilisé les rôles traditionnels, hein, de la sphère familiale. Et je crois que c'est ce qu'on a aussi trouvé dans le Sénégal. Il y a eu renversement donc, du rôle dans la gestion des ménages. Donc, les hommes participaient plus aux tâches ménagères, c'est-à-dire ils pouvaient laver les enfants, laver les assiettes, aller puiser de l'eau. Bah oui, dans les zones où on a fait les enquêtes, les hommes allaient puiser dans de l'eau. Et c'est vrai que cette opportunité donc, de restructuration des rôles et des pouvoirs, qui est beaucoup plus égalitaire et saluée donc, par certaines femmes et certains hommes, mais aussi certaines femmes étaient un peu réticentes. Elles se disaient non. Moi, je veux que mon mari sorte parce que s'il est à la maison, il me dérangerait beaucoup. Parce que je voudrais aller causer avec d'autres femmes, mais il me dérangerait. Donc, tout ça, c'est des effets, on va dire, positifs qu'on a remarqués. Et ce débalancement-là de l'équilibre traditionnel, on pense qu'on a bousculé le tabou et que c'est vraiment très positif en fait, pour la réconciliation plus égalitaire en fait, entre les relations donc, de pouvoir. En fait. Des hommes et des femmes.
Oui, docteur, restez avec nous. Docteur, oui. Docteur Sanfo,
oui.
Restez avec nous pour les 10 dernières minutes qui nous restent pour en revenir aux recommandations ou préconisations de quelques notes politiques avec docteur Katim Touré d'abord. Alors, docteur Touré, vous avez émis des recommandations ou des préconisations de quelques notes politiques en l'endroit peut-être des décideurs politiques. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces recommandations-là?
Oui, merci Madame Diallo. Je pense qu'en fait, l'étude que nous venons de faire appelle à un certain nombre de recommandations. Alors, ces recommandations vont dans le sens d'abord de repenser les mesures sanitaires favorables à la sécurité alimentaire en temps de pandémie. Parce que c'est important, parce que ce que nous venons de relater a montré que la pandémie a complètement bouleversé le système alimentaire, la sécurité alimentaire, en fait, de façon précise. Mais aussi d'adapter les mesures de contrôle des crises au fonctionnement des chaînes de valeur locales, aux calendriers culturaux, aux déplacements des producteurs et des productrices, des travailleurs et des travailleuses agricoles de façon globale, aussi à l'approvisionnement en intrants et à l'écoulement des produits agricoles. Parce qu'on a vu que la pandémie aussi a eu des effets sur l'écoulement, sur l'approvisionnement et l'écoulement des produits agricoles. Alors, une autre recommandation est d'assurer une continuité des déplacements des actrices ou des acteurs essentiels à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits. Les interdictions sur les déplacements ne permettent pas d'éviter les mouvements essentiels. Ça, c'est connu et ça a été en fait, c'est ressorti de l'étude. Mais contraignent hommes et femmes à les effectuer dans l'illégalité. Alors, c'est ce que Dr Sanfo disait tout à l'heure, en fait, des stratégies de contournement, surtout dans les zones frontalières. La tenue de foires aux semences, de foires en fait aux semences et des intrants agricoles, permet de limiter le nombre d'acteurs et d'actrices présentes et de contrôler le respect des règles sanitaires pourrait être une option à privilégier. C'est mobiliser aussi les produits locaux dans l'aide alimentaire afin d'appuyer l'écoulement des produits agricoles nationaux dans le système d'aide des gouvernements et des acteurs en fait humanitaires internationaux, surtout en temps de pandémie. Mais aussi adopter des mesures sélectives de restriction du commerce transfrontalier pour permettre le commerce d'intrants agricoles de biens alimentaires. Aussi inclure les femmes rurales dans la mise en place de mesures sanitaires en cas de pandémie afin d'adopter celles-ci au contexte rural et d'éviter de limiter les difficultés sur la sécurité alimentaire, la non-disponibilité ou l'accessibilité en fait des aliments, mais aussi de soutenir la reconfiguration, je termine par là, positive soutenir la reconfiguration positive des relations de pouvoir entre les femmes et les hommes en mettant en avant des bénéfices d'une plus grande égalité des genres pour les hommes et les femmes.
Docteur Sanfo, vous avez entendu Docteur Katim Touré sur les recommandations, entre autres la mobilisation des produits locaux dans l'aide alimentaire ou encore favoriser la diversification agricole. Est-ce que c'est les mêmes recommandations au Burkina Faso et ce sera votre mot de la fin également?
Oui, merci beaucoup, Mme Diallo. Oui, en fait, les recommandations énumérées par Docteur et Katim, mon collègue, ce serait à peu près les mêmes recommandations. C'est-à-dire qu'il faut renforcer en fait la production locale. Il ne faudra pas mettre donc ses œufs dans un même panier. C'est ce qui va ressortir. Il faut soutenir en fait et créer en fait des activités, c'est-à-dire qui rémunèrent beaucoup plus les femmes parce qu'elles ont été donc présentées comme vraiment surtout donc en milieu rural. Mais ce serait à peu près les mêmes recommandations. Soutenir beaucoup plus la production locale, mais aussi donc les activités des femmes, pour qu'elles soient beaucoup plus résilientes.
Merci. La ligne est un peu mauvaise, docteur Safiatou Sanfo. Merci d'être en ligne avec nous depuis le Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes docteur en économie agricole et enseignante au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES de l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso, co-réalisatrice de ce projet de recherche. Merci. Et merci aussi, docteur Katim Touré. Votre mot de la fin avant de finir.
Merci, peut-être. Madame Diallo. En fait, je voudrais, avant de terminer l'émission, en fait, remercier ou aussi citer en fait les collègues qui ne sont pas présents ici à l'antenne. Donc, je veux nommer Isabelle Vendeplace, en fait, du CECI au Canada. Madame Liette Vasseur, en fait, de l'Université de Brook au Canada, mais aussi Madame Fatoumata Baldé, qui est au CECI aussi au Canada, avec qui nous avons réalisé en fait cette étude. Nous disons également merci au CRDI, au Centre de recherche pour le développement international, établi à Ottawa au Canada, qui, grâce à sa subvention en fait, nous a permis de réaliser en fait ce projet.
De ce projet de recherche.
Je remercie aussi l'ensemble des collègues du CECI Sénégal, donc le directeur pays, Monsieur Mamadou Ley, mais aussi les collègues de la communication avec qui nous travaillons et que nous mettons en exergue et en débat les résultats
Merci.
De notre recherche.
Merci à vous, docteur Katim Touré, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA, de l'Université Ibader Tcham de Thiès. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi. Merci à Denise Tremblay, conseillère en communication au niveau de CECI Sénégal, à Madame Sarou de Trépont du Sénégal, à Amadou Dia qui a assuré la partie technique. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi. On se donne rendez-vous au mois de mars pour un autre numéro de Ceci en parle.
Ceci en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentées par Ceci Sénégal. Ceci, centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, Ceci travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du CECI Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. CECI en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1. Trade FM 88.1.